Le médecin des pauvres, deuxième partie, chapitre 19. Message de Maggie. Jean-Claude et Varose restaient seuls dans la grotte avec le père et le fils. Le moment des explications était venu. Ces explications furent longues et ne portèrent que sur des faits déjà connus de nos lecteurs. Raoul raconta à son père de quelle façon il avait été sauvé, non pas des eaux comme Moïse le législateur, mais des flammes par le vieux et fidèle Marcel Clément, ce modèle des serviteurs passés et à venir. Il raconta son éducation en France, son amour pour Églantine, sa première rencontre avec le capitaine. Tristan de Champdivers dit à son tour le poème de ses 20 ans de captivité, et les lugubres souvenirs qu'il évoqua firent couler des larmes amères sur le visage de Raoul et mouillèrent à plus d'une reprise les yeux du vieux Varose. Puis, enfin, le capitaine des corps francs entra dans les détails relatifs à la nuit terrible qu'il venait de passer au château de l'Aigle. Il dit le but et les moyens de l'infâme trahison d'Antide de Montaigu et la récompense sur laquelle le gentilhomme déloyal comptait pour payer cette trahison. Il en arriva à Églantine et au fantôme de la tour de l'aiguille. Il fit passer sous les yeux de Tristan les particularités de la naissance de la jeune fille et les mystérieux incidents de la nuit du 17 janvier 1620. Il parla de Pierre Prost, du masque noir, du médaillon et de la main sanglante, et il fit partager à ses auditeurs la ferme conviction dont il était animé que c'était bien réellement au château de l'Aigle que le médecin des pauvres avait été conduit, et qu'Églantine était bien réellement la fille de Blanche de Mirbel, violentée par Antide de Montaigu. Qu'importe, s'écria le vieux baron quand Jean-Claude eut achevé, qu'importe que la naissance de cette chère et malheureuse enfant soit le résultat d'un crime lâche et honteux. Raoul aime Églantine comme sa fiancée. Je l'aime, moi, comme ma fille. Nous ne voulons, nous ne pouvons voir en elle que l'enfant du médecin des pauvres, que la cousine du capitaine Lacuzon. C'est avec joie et avec orgueil que Raoul donnera à Églantine le nom de Champdivers. C'est avec joie et avec orgueil que je me dirai son père. « Mais elle est prisonnière !» s'écria Raoul. « Et tant qu'elle ne sera pas revenue auprès de nous, je tremblerai. »« Elle sera libre ce soir, » répondit le capitaine, « car dans quelques heures, nous marcherons sur le château de l'Aigle. » Je vous répète d'ailleurs qu'Églantine ne court aucun danger. Elle est auprès de sa mère dans la tour de l'aiguille. Et Antide de Montaigu, convaincu qu'elle a quitté le château, ne peut tenter aucune démarche pour s'emparer d'elle de nouveau. « Je vous crois, capitaine, » dit le jeune homme, « et je suis tranquille. Cependant, je vous supplie de hâter l'attaque, et je vous demande, comme une faveur spéciale, de m'y laisser combattre au premier rang. » Varose regarda Tristan avec un sourire. « Tu vois, baron, » fit-il ensuite, « bon sang ne peut mentir. Ah, Raoul est bien ton fils. L'aiglon a déjà le vol de l'aigle. » En ce moment, un pas rapide retentit sur l'escalier qui conduisait à la grotte dans laquelle se trouvaient nos personnages, et on frappa vivement à la porte. « Entrez !» dit le capitaine. La porte s'ouvrit, Garbasse parut. « Eh bien ?» demanda l'accusant. « Un des hommes de l'escorte de la vieille Maggie vient d'arriver, » répondit Garbasse. « Il est épuisé par une longue course faite tout d'une haleine. Il demande à vous parler sur le champ. »« qu'il vienne !» répondirent à la fois l'accusant et Varose. « Marche à terre !» cria Garbasse. « Le capitaine t'attend !» Au bout de quelques secondes, un montagnard ruisselant de sueur se montra dans l'entrebâillement de la porte. « Tu apportes des nouvelles ?» lui dit l'accusant en allant à lui. « Oui, capitaine. »« D'abord, d'où viens-tu ? » reprit vivement Jean-Claude. « De Clairvaux. »« Que s'est-il passé ? » ?»« Maggie nous a fait cacher dans le bois qui est à gauche de la rivière, et elle est allée au château. » »« Ensuite ?» ?»« Au bout d'une demi-heure, elle est revenue et m'a ordonné de courir au trou des gangones et de vous répéter ce qu'elle allait me dire. » »« Et que t'a-t-elle dit ? » ?»«
Deux choses. »
La première, que le comte de Montaigu venait d'arriver à l'improviste à Clairvaux et qu'il était inutile de rien tenter aujourd'hui contre le château de l'Aigle.
Et après ?
Qu'il fallait vous trouver aujourd'hui, le plus tôt possible, avant midi si ça se pouvait, dans le bois de Saint-Maur.
Seul ?
Oh non, capitaine, avec beaucoup de monde au contraire, 500 hommes au moins.
Et là, que faudra-t-il faire ?
Maggie viendra vous le dire elle-même, ou elle vous enverra un de mes camarades. Elle les a gardés tout exprès pour en faire des messagers.
Et après une seconde de silence, Marchater ajouta.
« Capitaine, ma commission est faite ?»«
C'est bien, descends et repose-toi. »
Le montagnard disparut.
« Garbas, » dit l'accusant.
« Capitaine ?
Appelle le lieutenant. »«
Oui, capitaine. »
Piédefer accourut.
« Combien avons-nous d'hommes ici ?» lui demanda l'accusant.
« 300, capitaine. »
« À la Franée ? »
« 250. »
« Au champ Sarrasin ? »
« 150. »
« Au pont de la Pile ? »
« Autant. »
« Tu vas prendre ici 200 hommes et tu partiras avec eux pour le bois de Saint-Maur. »
« Oui, capitaine. »
« Tu auras soin de diviser ton monde par petites bandes qui suivront différents chemins. »
« Oui, capitaine. »
« Le porte-balle prendra 100 hommes à la Franée et les conduira au même but de la même façon. »
« Oui, capitaine. »
« Cœur de chêne et bijoux courront, l'un au champ Sarrasin, l'autre au pont de la Pile. Chacun d'eux dirigera 100 hommes vers le bois de Saint-Maur. »
« Tu m'as bien compris. »
« Parfaitement, capitaine. »
« Tout ce monde prendra les plus grandes précautions, agira avec une extrême prudence et une fois au lieu désigné, se tiendra sur ses gardes, mais bien caché. On posera les sentinelles derrière les arbres, de façon qu'elles ne soient point en vue. »
« Ce sera fait, capitaine.
Je vais partir moi-même avec une escorte de 50 hommes. Qu'on se hâte et qu'on fasse en sorte que je n'arrive pas le premier. »
« On tâchera, capitaine.
Va, et n'oublie aucune de mes instructions. »
Piédefer descendit en courant, et on l'entendit crier d'une voix tonnante dont les échos de la caverne répétèrent longtemps les vibrations.
« 200 hommes sous les arbres et 50 nommés d'escorte pour le capitaine !»«
Eh bien ?» demanda Varose.
« Et moi, que vais-je faire ?»«
Je comptais vous prier, » répondit l'accusant, « de vouloir bien rester ici, avec le baron de Champ d'Hiver, afin d'être prêt à prendre le commandement des renforts que je demanderai peut-être bientôt, quand je saurai quel est le véritable but de l'expédition. Car en ce moment, vous le voyez, je marche en aveugle, sous la direction de Maggie. »
« Nous attendrons, » dit le colonel, « mais ne nous laisse pas nous engourdir trop longtemps dans l'inaction. »
« Soyez tranquille, je n'aurai pas l'égoïsme de garder le danger pour moi tout seul. »
« Va donc, Jean-Claude, et que Dieu te protège et marche avec toi. »
Le capitaine se tourna vers le baron de Champ d'Hiver.
« Messire, lui dit-il, me pardonnerez-vous de vous enlever si vite ce fils que vous retrouvez à peine ? Je désire vivement que mon frère Raoul m'accompagne. »
« Merci, s'écria le jeune homme. Merci de l'avoir demandé, capitaine. Si vous n'aviez pas pensé à m'emmener, ou si vous aviez refusé de le faire, je vous aurais suivi malgré vous. »
« Prenez-le, dit à son tour le vieux baron. Je vous le donne avec joie et avec confiance. Jamais il ne recevra de plus nobles leçons, de plus sublimes exemples. Et si Dieu me réservait cette suprême douleur d'avoir à le reperdre après l'avoir revu, ce serait une consolation pour moi de penser qu'il est tombé à côté du capitaine l'accusant.
« Mon père, fit Raoul en ployant le genou devant le vieillard, bénissez-moi pour me porter bonheur et pour me rendre invulnérable. » La main droite de Tristan s'appuya sur la blonde tête du jeune homme. « Va, lui dit-il ensuite, va, mon fils bien-aimé, que Dieu garde ta jeunesse fière et charmante pour être le bonheur et l'orgueil de mes vieilles années. Mais quoi qu'il ait décidé de toi, que sa volonté soit faite et que son saint nom soit béni. » Le capitaine et Raoul quittèrent la grotte. Piédefer et ses 200 hommes étaient déjà loin. Les 50 montagnards qui devaient former l'escorte de l'accusant attendaient la rapière au côté, les pistolets à la ceinture, le mousquet sur l'épaule. Parmi eux se trouvait Garbas. Le ciel était bas et sombre. Un brouillard épais rampait sur les montagnes, s'accrochait aux cimes des sapins, ensevelissait dans un linceul de brume la silhouette crénelée et lointaine du château de l'Aigle, et faisait de toute la vallée d'Ilet quelque chose de comparable à un grand fleuve gris et morne. La petite troupe s'enfonça dans ses lourdes vapeurs, très favorables pour la marche rapide et mystérieuse des montagnards, qui ne tardèrent point à s'effacer et à disparaître parmi les brouillards, depuis le premier homme jusqu'au dernier. Les conjectures de Maggie s'étaient trouvées justes. Le curé marquis avait été, en effet, conduit au château de Clairvaux par les gris qui venaient de s'emparer de lui dans les bois de Charézier. Mais la garde de l'un des membres de la grande trinité franc-comtoise était une tâche trop lourde et surtout trop compromettante pour le sire de Beaufremont, qui n'avait pas encore levé hautement l'étendard de la trahison. Aussi, dès le point du jour, le curé marquis fut tiré du cachot dans lequel il avait passé la nuit. On lui lia les mains derrière le dos, on jeta sur sa soutane rouge un long manteau sombre. Les gris, au nombre de 20 ou 30, le placèrent au milieu d'eux et se remirent en marche. D'après la direction prise par la troupe qui l'enveloppait, le prisonnier put acquérir la certitude qu'on le conduisait au bas pays, dans l'intention parfaitement évidente de le livrer aux Français et aux Suédois. Marquis se rendait trop bien compte de sa haute importance et du rôle immense et magnifique qu'il venait de jouer dans la guerre de la conquête pour ne pas savoir qu'il ne devait attendre de ses ennemis ni grâce ni pitié. Il comprenait qu'on ne lui pardonnerait pas d'avoir organisé la résistance, d'avoir fait du Haut-Jura un infranchissable rempart, d'avoir servi avec son génie et avec son bras la cause sainte de la liberté. Il comprenait qu'on vengerait sur lui tout le sang versé depuis le commencement de l'invasion, qu'on ne le traiterait point en adversaire, mais en révolté, et que des vengeances personnelles exigeraient son supplice, auquel on donnerait une couleur de représailles. Marquis savait tout cela, et il marchait avec le calme stoïque d'un héros et d'un martyr au-devant d'une mort qui lui paraissait inévitable. Que lui importait la mort? N'avait-il pas accompli sa tâche? N'avait-il pas donné joyeusement la dernière goutte de son sang à son pays auquel il avait consacré sa vie? Prêtre et soldat, n'avait-il pas vu souvent la mort de près? Jésus crucifié, d'ailleurs, son maître et son Dieu, ne lui rappelait-il pas que l'échafaud n'est parfois qu'une halte entre la terre et le ciel? Et cependant, par instant, une amère tristesse envahissait son âme. Un frisson passait sur sa chair. Ses lèvres pâles murmuraient les paroles du Christ au mont des Oliviers, dans la nuit de la Passion. « Seigneur, Seigneur, éloignez de moi ce calice !» C'est qu'en ces instants, il pensait à la joie insolente, au triomphe cruel des Français et des Suédois, quand ils allaient voir arriver dans leur camp, prisonniers, enchaînés, vaincus, le vainqueur de la veille, qui si souvent les avait fait trembler. Ces moments étaient courts. Marquis comprimait bien vite ses révoltes intérieures. Le soldat s'effaçait pour laisser la place au prêtre. Il fallait se résigner, d'ailleurs, car toute espérance était vaine. Toute tentative de fuite était insensée. Les gris connaissaient bien la valeur de leur capture. Ils veillaient sur le prisonnier mieux qu'un avare n'a jamais veillé sur son or, mieux qu'un jaloux ne veille sur sa maîtresse ou sur sa femme. Une seule fois, pendant le trajet, une occasion de délivrance parut se présenter, et cette occasion devint pour le prisonnier l'occasion d'un nouveau péril. L'escorte, forte ainsi que nous l'avons dit de 20 ou 30 hommes, passait en vue du manoir de Verges, appartenant au comte Henri de Verges, véritable franc-comtois de sang et de cœur. Il était en ce moment 8 heures du matin. Le comte envoya un détachement de ses hommes d'armes reconnaître la petite troupe. Marquis songea, sinon à courir au-devant d'eux, il ne le pouvait pas, mais à leur crier son nom et à les appeler à son aide. Certes, s'il lui avait été possible d'accomplir ce projet, un combat se fut engagé. La garnison tout entière serait sortie du château, et la délivrance du curé n'eût pas été douteuse. Les gris devinèrent la pensée du prisonnier au moment même où elle se formulait dans son esprit. L'un d'eux s'approcha de lui, tira son poignard, et lui appuyant sur le bras gauche la pointe acérée de l'arme, il murmura d'une voix basse et pénétrante. « Si vous dites un mot, si vous poussez un cri, vous êtes mort !» Marquis fit un mouvement involontaire. Le gris, soit qu'il se méprît sur le but de ce mouvement, soit qu'il voulût ajouter quelque chose à l'énergique avertissement qu'il venait de donner, le gris, disons-nous, appuya la main.
La lame du poignard pénétra de 2 pouces dans le bras du prêtre et le sang jaillit.
« Vous me faites mal !» dit Marquis avec un sourire doux et résigné.
Le bourreau, sans doute, eut honte de son infâme brutalité. Le poignard sortit des chairs. Le prêtre reprit son calme stoïque et les hommes d'armes du seigneur de Verges, ne se doutant point qu'on emmenait un prisonnier sous leurs yeux, et peu désireux d'engager un combat sans but, se replièrent vers le château. La route était redevenue libre. Les gris continuèrent à marcher en hâtant le pas. Ils firent vers 11 heures une courte halte, et quelques minutes avant 2 heures de l'après-midi, ils arrivèrent au château de Bletterand, où se trouvait installé le quartier général de l'armée française. Cette armée était campée un peu en deçà et occupait un rayon 1,5 lieue du côté de Lons-le-Saunier, depuis Villevieux jusqu'à Montmoreau, dont le château avait été démantelé par Henri IV, 43 ans avant l'époque où se passaient les faits que nous racontons. L'escorte franchit la limite des dernières tentes du camp français et traversa un espace assez vaste, sans faire d'autres rencontres que celles de quelques officiers et de nombreux messagers d'ordonnance allant du château au camp et du camp au château. Mais à mesure que l'escorte se rapprochait du quartier général, des groupes plus nombreux se pressaient autour d'elle, et ces groupes avaient un air de fête et de triomphe. Il était manifeste que la nouvelle de la captivité du prêtre-soldat avait devancé son arrivée. Le château de Bletterand, stratégiquement parlant, pouvait se considérer comme la clé du bailliage d'Aval. Situé sur la Seille, rivière ou plutôt torrent, qui prend sa source dans les rochers de Baume, à 4 lieues de là, il défendait du côté de la Bresse l'entrée de la Franche-Comté. Or, comme la Bresse appartenait à la France, les généraux français s'étaient emparés de Bletterand dès le commencement de la guerre, et c'était pour eux une place d'une inappréciable importance comme centre d'opérations militaires et comme boulevard solide, soit pour appuyer l'attaque, soit pour favoriser la retraite. Bletterand était un village fortifié plutôt qu'un simple château. À l'extrémité nord des fortifications s'élevait la citadelle. Cette citadelle, située au milieu d'une plaine qu'aucune élévation ne dominait, entourée d'ailleurs presque entièrement par les plis et les replis de la rivière rapide et profonde, fortification naturelle, plus forte que celle élevée par la main des hommes, avait passé bien longtemps pour imprenable. Les Français ne s'en étaient rendus maîtres qu'après des combats longs et acharnés, et le drapeau de la citadelle enfin vaincu ne s'était incliné que dans des flots de sang franc-comtois. Chapitre 20. Un portrait historique. Le pont-levis de la citadelle s'abaissa pour laisser passer le curé marquis et son escorte. Tandis que les gris traversaient les cours et les esplanades avec une lenteur calculée, la curiosité insolente et brutale des soldats et de cette population immonde de goujats et de vivandiers qui suit les armées en campagne se concentrait sur le prisonnier. Des grossiers colibés, les jeux de mots cyniques, les railleries, les insultes pleuvaient autour de lui. « Le voilà donc, ce curé fier à bras !»« Ce grand pourfendeur de montagne !» disaient les uns. « Curé !» criaient les autres. « Le moment est venu d'entonner pour toi-même à 2 profondis. Appelle tes bedeaux !»« Curé, qu'as-tu fait de ton missel ?»« Curé, où est la broche à rôtir qui te servait de dague ?»« Curé, pourquoi n'es-tu pas resté dans ta cure à annonner ton bréviaire, à planter tes choux et à courtiser ta servante ?» « Voyez donc ce desservant de campagne, avec sa face pâle et sa soutane rouge. Ne savez-vous pas qu'il s'est nommé cardinal de son autorité privée, et qu'il porte une robe écarlate à cause de cela ?»« Eh non, ce n'est pas pour cela. Et pourquoi donc ? C'est pour faire peur aux petits-enfants. C'est le curé Croque-Mitaine, alors. Tout justement. Je vous dis, moi, qu'il voulait faire pièce à son éminence, monseigneur le cardinal de Richelieu. » Il a réussi, il sera bientôt plus haut placé que son éminence. Comment l'entends-tu? Je l'entends comme il faut l'entendre, un curé pendu est en plus haute position qu'un cardinal assis. Et la tourbe idiote et lâche riait et battait des mains à ses lazis hideux. Le curé marquis
impassible et résigné en apparence, comme Jésus portant sa croix, s'absorbait dans sa propre pensée et semblait ne rien entendre. Et cependant, un ouragan de colère contenue grondait au fond de son âme, et il se rappelait combien de fois il avait vu se débander et s'enfuir sur les champs de bataille, au seul aspect de sa soutane écarlate, tous ces soldats qui se faisaient ses insulteurs, maintenant qu'il était captif et que ses mains enchaînées ne pouvaient plus brandir la rapière et le crucifix. Enfin, ce supplice eut un terme. L'escorte atteignit la haute porte cintrée qui donnait accès dans l'intérieur même de la citadelle. Le lieutenant des Gris alla chercher des ordres, et pendant son absence, les gardes du captif le conduisirent dans une salle basse où l'on ne tarda guère à leur apporter du vin et des viandes. Les cordes qui attachaient les poignets de Marquis serraient la chair au point de la couper. Son bras blessé saignait toujours et lui faisait endurer d'intolérables tortures. Épuisé de fatigue, le prêtre s'assit sur un banc. Mais ses lèvres ne murmurèrent pas une plainte et il ne demanda point qu'on le soulageât en déliant les cordes. Il lui répugnait invinciblement d'implorer la compassion de ses bourreaux. Et qui sait d'ailleurs si sa prière eût été accueillie autrement que par des ricanements nouveaux et de nouvelles insultes. Là, ce grand homme de bien, ce prêtre pur, ce soldat vaillant, s'efforça d'arracher son âme aux étreintes de la chair souffrante et révoltée, et il supplia Dieu de lui accorder pour dernière grâce la force de mourir en héros, comme il avait vécu. Quittons cette salle basse où les Gris, faisant orgie près du prisonnier, lançaient aux échos de la voûte les honteux refrains de chansons obscènes et blasphématoires, et pénétrons dans une autre partie du château. Nos lecteurs voudront bien franchir avec nous le seuil d'une pièce de dimension gigantesque, jadis salon d'honneur, où, à de certains jours de fête, le gouverneur de la citadelle de Bletteran réunissait toute la noblesse du bailliage d'Aval. Cette immense salle, presque entièrement démeublée, offrait des traces irrécusables du dernier siège subi par le château. Un grand nombre des vitres, des hautes et larges fenêtres avaient été brisées par les balles. On avait remplacé à la hâte et tant bien que mal ces vitres absentes par des morceaux de parchemin huilé qui ne tamisaient qu'une lumière rare et douteuse. Les balles et les éclats d'obus avaient troué et déchiré en maints endroits les portraits en pied des guerriers fameux de la province, et ces grands hommes de guerre s'étaient vus, après leur mort, plus balafrés et plus cicatrisés que de leurs vivants. Un poêle de fonte, dont le tuyau sortait par une ouverture pratiquée ad hoc dans une des fenêtres, était bourré de combustible au point d'être devenu d'un beau rouge cerise. Et cependant, il ne combattait qu'à peine le froid intense qui, par les croisées disjointes et les portes mal closes, envahissait la grande salle où se trouvaient en ce moment 6 personnages. L'un de ces personnages était assis, ou plutôt couché, dans un grand fauteuil de chêne sculpté, garni de velours cramoisi et de crépines d'or, meuble luxueux qui, selon toute apparence, ne faisait point partie du mobilier dévasté du château. Les 5 autres hommes se tenaient debout, dans des attitudes respectueuses et la tête découverte autour du personnage assis. C'est de celui-ci que nous allons nous occuper tout d'abord. Son visage est tellement typique, sa physionomie historique tellement connue, qu'une rapide esquisse suffira pour remettre cette physionomie et ce visage sous les yeux de nos lecteurs. Sa figure osseuse et longue offrait une pâleur bistre et maladive. Ses yeux, très grands, d'un éclat presque insoutenable, et dont le regard avait une étrange fixité et une incomparable expression de puissance et de discernement, étincelaient dans des arcades sourcilières extrêmement profondes et rendues plus sombres par les épais sourcils qui les couronnaient. 2 lèvres minces, peu colorées, d'une mobilité prodigieuse et se contractant sous la moindre impression en une sorte de rictus sardonique, dessinaient leurs lignes à peine courbées sous de longues moustaches grises cavalièrement retroussées en croc comme des moustaches de mousquetaire. Cette bouche caractéristique, jointe à la perspicacité du regard étincelant et dur, donnait à l'ensemble du visage une expression de ruse, d'audace, de cruauté, de confiance en soi-même et enfin de génie. Une longue royale grise ornait le menton aigu et nettement découpé. Moustaches et royales semblaient afficher des allures aventureuses et raffinées qui s'accordaient mal avec l'état d'anéantissement profond que décelait la pâleur du visage et l'attitude abandonnée du corps. Le regard seul et le sourire démentaient cette faiblesse évidente et cet irrécusable épuisement. Le corps souffrait, le corps s'en allait vers la tombe. L'âme, l'intelligence, l'esprit étaient plus forts, plus lumineux, plus vivaces que jamais. Le costume du personnage que nous venons de décrire attirait tout d'abord l'attention, malgré son extrême simplicité. Il consistait en une longue robe de drap rouge enveloppant les membres dans ses plis nombreux et en une calotte de même étoffe et de même couleur emprisonnant étroitement la tête. Sur la pourpre éclatante se détachaient les mains. Elles étaient longues et fines, d'une forme admirable et d'une blancheur mate, de véritables mains de femme et de duchesse. Nous connaissons déjà deux des personnages qui se tenaient debout autour de l'homme assis. C'était le comte de Guébriant et le comte Antide de Montaigu, seigneur de l'Aigle. Les trois autres étaient trois généraux de l'armée française. Le duc de Longeville, le marquis de Villeroy, le marquis de Feuquières. Au moment où nous entrons dans la grande salle, l'homme vêtu de rouge écoutait avec attention le comte de Montaigu. Ce dernier, qui venait d'arriver à Bletterans sous les auspices de Messire de Guébriant, annonçait à son imposant auditeur que le curé marquis, fait prisonnier la veille, allait être amené sous bonne escorte et livré par ses ordres au chef suprême de l'armée française comme premier gage de son absolu dévouement à la cause de la France. L'homme à la robe rouge se contenta d'incliner doucement la tête. Le seigneur de l'Aigle continua. Il exposa son plan tout entier et il entra dans le détail des moyens qu'il comptait mettre en usage pour s'emparer successivement des deux autres chefs de la montagne, Lacuzon et Varose, et pour amener d'une façon prompte et sûre l'asservissement de la province en portant le dernier coup à l'esprit d'indépendance dans la personne des deux héros de la liberté franc-comtoise. Il s'inclina ensuite en murmurant « Monseigneur, j'ai dit. » L'homme à la robe rouge, qui l'avait écouté sans l'interrompre une seule fois, leva les yeux alors et attacha longuement sur le seigneur de l'Aigle son regard clair et profond. Puis il répondit d'une voix lente et basse « C'est bien, messire, vous avez agi pour le mieux, et vos plans nous paraissent habilement combinés. Nous croyons à leur réussite. Quand nous toucherons à la fin de cette longue campagne, quand l'heure sera venue de régler nos comptes et de distribuer des récompenses, vous pouvez compter que vous ne serez point oubliés. Nous vous en donnons notre parole. » Le sire de Montaigu s'inclina de nouveau. En se relevant, il avait au front la brûlante rougeur de l'orgueil satisfait et de l'ambition triomphante. « Monseigneur, balbutia-t-il. « C'est bien, répéta l'homme à la robe rouge en interrompant la formule de remerciement quand Tite de Montaigu allait commencer. L'une des portes de la grande salle s'ouvrit et un officier entra. Il s'avança auprès du personnage assis et là il s'arrêta, attendant qu'on l'interrogeât. « Qu'y a-t-il ? » lui demanda l'homme rouge. « Monseigneur, répondit-il, un prisonnier de haute importance vient d'arriver sous escorte. Quel est ce prisonnier ? Le curé marquis. J'étais prévenu. Où est celui dont vous parlez ? Dans une salle basse, monseigneur. Qu'on le conduise ici et qu'il soit introduit devant moi dans 5 minutes. » L'officier sortit. « Je veux parler à cet homme, » reprit le personnage qu'on appelait Monseigneur. « Je veux me convaincre par mes propres yeux qu'il est à la hauteur de sa réputation, ou que cette réputation n'est qu'un mensonge. Je veux enfin voir quelle sera sa contenance quand il se trouvera en face de moi et quand il saura qui je suis. C'est dans ces occasions-là qu'il est possible de juger un homme en un instant. » Après quelques secondes de silence, le personnage à la robe rouge reprit en s'adressant au marquis de Feuquières. « Veillez, je vous prie, général, à ce que mon nom ne soit point prononcé devant le prisonnier. Je tiens à ce qu'il ne l'apprenne qu'en ma présence. Donnez l'ordre, en outre, à 50 de mes gardes de venir se ranger derrière mon fauteuil.
Et il ajouta en souriant de son étrange sourire, « Puisque le curé marquis est un des chefs de la montagne, nous allons le recevoir d'une façon digne de lui. »
« Monseigneur, » dit alors Antide de Montaigu, « que voulez-vous, messire ?
L'intérêt de la cause à laquelle je me suis donné corps et âme exige peut-être que le curé marquis ne puisse me reconnaître.
Eh bien, votre éminence daigne-t-elle m'autoriser à revêtir, quoique en sa présence, mon déguisement habituel ?
Le masque noir, n'est-ce pas ?
Oui, monseigneur.
Faites, messire.
Le seigneur de l'aigle sortit. Il reparut au bout d'une ou deux minutes, enveloppé dans les plis d'un long manteau et le visage caché par son masque de velours et d'acier. En même temps, les 50 gardes vinrent se ranger, revêtus de leur étincelant costume et l'épée nue à la main, dans le fond de la salle. Le comte de Guébriant et les officiers français prirent place à la droite du fauteuil, s'isolant volontairement ou instinctivement du seigneur de l'aigle, qui resta seul sur la gauche.
« Oh, mes gentilshommes !» pensa ce dernier en remarquant ce mouvement parfaitement visible et en fronçant ses épais sourcils sous son masque de velours. « Si vous saviez, comme le gouverneur du comté de Bourgogne se rit de vos dédains !» Et cependant, malgré l'orgueilleuse jactance de cette muette apostrophe, un levain d'amertume commençait à gonfler son âme.
« Général, dit alors l'homme rouge au marquis de Feuquières, faites entrer le prisonnier. »
Les portes s'ouvrirent à deux battants et le curé marquis parut sur le seuil, au milieu d'une dizaine de soldats dont les rapières nues l'enveloppaient dans un cercle d'acier. On venait de délier ses mains, ce qui avait apporté quelque soulagement à ses cuisantes douleurs. Néanmoins, il était très pâle, et autour de ses paupières fatiguées se dessinait un large cercle qu'on eût dit tracé au charbon. En mettant le pied dans cette immense pièce, qui n'était pour lui qu'une salle d'attente avant la mort, une sorte d'antichambre de l'échafaud, il fut surpris du singulier appareil militaire qui se déployait devant ses regards, et dont à coup sûr on avait fait les frais à son intention. Ce spectacle lui donna la preuve qu'il n'était pas grand seulement pour les paysans et pour les montagnards, mais encore pour des ennemis aussi redoutables que les Français, et il en éprouva un sentiment de joie intime et de naïf orgueil. Son regard calme et assuré erra sur les visages qui l'entouraient, voulant ainsi reconnaître en quelque sorte le terrain, savoir ce qu'il avait à craindre et ce qu'il avait à espérer. Ses yeux s'arrêtèrent d'abord sur le principal des acteurs de cette scène, sur celui auquel le premier rôle était évidemment destiné, sur le personnage à la robe rouge. L'effet produit par cette vue fut immédiat. Il tressaillit, mais aucune nuance de trouble ou d'émotion ne se peignit sur sa figure. On n'y put lire que de la surprise, de la curiosité et même une sorte de satisfaction. Un sourire ébauché souleva à demi sa lèvre supérieure et pendant une seconde, son regard brilla d'un plus vif éclat. Ceci ne fut d'ailleurs qu'un éclair. L'homme à la robe rouge saisit cet éclair au passage et son front se plissa. Mais déjà, Marquis ne le regardait plus. Ses yeux errants venaient dans leur investigation circulaire et rapide de tomber sur le masque noir. Le prêtre-soldat frissonna de tous ses membres, comme s'il venait de marcher sur un serpent, et comme s'il eût senti tout à coup à son talon la morsure du hideux reptile. Son visage devint pourpre, et son regard écrasant de mépris se chargea d'une lueur sanglante. Cette émotion de haine, ou plutôt d'horreur, ne dura qu'une seconde, et Marquis, redevenu calme, détourna la tête. Il passa en revue avec une profonde et manifeste indifférence les officiers de l'armée française. Puis, ses yeux, obéissant sans doute à quelque irrésistible attraction, revinrent se fixer sur l'homme rouge.